Bonjour. Bonjour et bienvenue à chacun. Dieu nous accueille chacun et il se réjouit de nous voir tous présents ici. Il nous connaît par notre prénom. Et il se dit chouette, Joël. Je suis vraiment content de te voir là ce matin. Alors j'aurais un peu de peine moi avec tous les prénoms, mais lui, notre Dieu, il les connaît, il les sait, c'est pas un problème pour lui. Il se réjouit de vous appeler chacun. Je suis vraiment content de te voir ce matin. Ça, c'est ce qu'il se dit. Alors que l'on vienne régulièrement ou pas, peu importe notre état intérieur, notre état extérieur, pour certains c'est un petit peu plus délicat ces jours, peu importe notre niveau de sainteté, si cette expression avait seulement le moindre sens pour celui qui a tout donné pour nous, il se réjouit aussi de vous voir connectés pour ceux qui sont en train de nous suivre à la maison ou derrière leur écran. Il se réjouit de nous voir chacun individuellement et il se réjouit de nous voir tous ensemble en tant qu'Église. Je ne sais pas trop de quelle Église on se rapprocherait dans la liste des sept Églises de l'Apocalypse. Il y aurait certainement pas mal de choses à reprendre, mais peut-être aussi des bonnes choses à recevoir. Alors ce matin, le message sera en lien avec ce qui a été annoncé, pas dans l'Apocalypse, mais par Paul à l'Église de Thessalonique. Et on verra ce qui nous attend. Donc ce matin, comme chaque culte, Dieu se réjouit de nous accueillir, de nous voir. Il nous appelle à faire un petit peu plus que simplement être là. Il nous appelle à nous approcher de lui, à être à son écoute. Il nous appelle à ouvrir nos cœurs, notre esprit et à recevoir sa parole. Il nous appelle aussi à ouvrir nos bouches derrière le masque. Alors c'est pas encore vraiment pour le chanter, en tout cas pour l'instant, mais il nous appelle à le prier, à le louer, à l'adorer. Et pas juste du bout des lèvres. Il nous appelle à être témoins de son royaume. Et ici même, pour commencer, entre nous. Il nous envoie, il nous équipe, il nous missionne pour être témoins à l'extérieur, durant notre semaine aussi, durant notre travail, dans nos familles, dans nos activités, nos loisirs, dans nos voitures, au travers de toutes nos interactions. Alors ça fait du travail. Et du coup, je vous invite à commencer par prier. Seigneur Dieu, merci parce que tu es le Dieu créateur et tu as aimé ta création. Merci parce que tu as gardé ton amour pour ta création tout au long de notre histoire. Et tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour elle. Merci parce que tu nous accueilles ce matin, tel que nous sommes. Parce que tu veux venir dans nos vies et dans nos communautés, ici, à Mérin et partout dans le monde, pour que nous soyons tes témoins. Alors nous nous tournons vers toi et nous voulons louer ton nom, Dieu le Père. Nous voulons invoquer ton esprit pour qu'il souffle sur nous et au travers de nous. Nous voulons élever le Fils qui s'est fait homme pour vivre parmi nous. Que tu bénisses ce temps de culte. Que tu travailles notre être tout entier pour que nous puissions avancer avec toi et être à ton image, témoin de ta parole. Amen. Alors ce matin, il devait être question de désert. Alors, c'est pas à cause de la pluie de ces derniers jours, Mais il y a eu un petit changement de dernière minute. Donc Célina est peu bien, du coup c'est Philippe qui la remplace pour la prédication. Sylvain, mon papa, lui se retrouve un petit peu handicapé, il devait jouer, donc c'est Xavier qui le remplace aussi pour la musique et les chants. Moi jusque-là, ça va. Alors merci à vous en tout cas, et puis aussi à toutes les personnes impliquées de différentes manières pour le déroulement de ce culte. Voilà, et on va prendre un petit temps de chant entre guillemets. Donc je vous invite pas à chanter, mais on prendra quelques versets et puis quelques chants que je vous invite à dire ou à écouter et méditer. Et pour commencer, je vous lis juste quelques versets du psaume 133 qu'on reprendra après dans le prochain chant. « Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est là, à Sion, alors dans le psaume c'est à Sion, pour nous on peut dire c'est là aujourd'hui dans son église, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. » Donc je vous invite à prendre ce premier chant et à dire les paroles de ce chant tous ensemble. Moi, je vais les lire à haute voix et on aura la musique avec. C'est avec toi, Seigneur, tous ensemble. Alors, vous pouvez peut-être vous lever pour ce premier chant, puis on se rassera pour les suivants. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Nous voici, joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Donne ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je continue avec un autre passage, un extrait de Proverbe 3, qui dit « Mon enfant, que le discernement et la réflexion te guident, ne t'en détourne jamais. » Alors je rajouterai juste que le discernement, la réflexion, la sagesse, il s'agit bien de l'utiliser, mais en imaginant être conduit, inspiré et instruit par la connaissance de Dieu, par la connaissance de sa parole. Et ça continue en disant « Ils te feront vivre d'une vie véritable et belle. Tu avanceras avec assurance. » Aucun obstacle ne te fera tomber. Le soir, tu te coucheras sans peur, et la nuit, ton sommeil sera paisible. Tu ne craindras ni des terreurs soudaines, ni des attaques de la part des méchants, car le Seigneur te gardera en sécurité. Il écartera tout piège de tes pas. Continuez avec mon encre et ma voile. Alors, je vais aussi lire une partie des paroles, mais vous pouvez rester assis. Dieu, tu es ma force, tu es ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan. Ta voix a remporté le combat. Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et à suivre ton chemin. Ta miséricorde coule de la croix. Ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi. Sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta parole, cette fois je vous laisse lire les paroles si elles veulent bien arriver. Que ta parole, Seigneur, illumine nos vies. Et que tu bénisses Philippe qui nous la partage. Que tu nous rendes disponibles à toi pour qu'elle vienne travailler notre être tout entier. Amen.
Bonjour à chacun, chacune. Bonjour à vous de l'autre côté de la caméra, de l'écran. J'espère que vous êtes confortablement installés. Une pensée pour Célina. Je crois qu'elle nous regarde en lui souhaitant le plus vite possible un plein et complet rétablissement. Je me souviens encore de ce livre lu il y a quelques années, Chagrin d'école. Tu l'as lu ?
Ouais, c'est
tu te rappelles par qui il est écrit ? Qui était de métier ? Exactement. Waouh ! Alors là, je suis impressionné. Ouais, un bouquin écrit par Daniel Pennac, ancien prof. Et effectivement, dans ce livre, il y fait l'éloge des cancres, parce qu'il en faisait partie lui aussi. Et puis ce qui m'a plu, c'était sur la quatrième de couverture, un bulletin de notes. Un bulletin de notes. Et sur ce bulletin de notes, le professeur d'anglais met ceci. Professeur d'anglais. Parle beaucoup en classe, mais pas un mot d'anglais. Le prof de maths indique cela. Pour comprendre les probabilités, mettez-vous au poker, vous maîtrisez déjà le bluff. Pour un élève qui avait régulièrement autour de 3 de moyenne en maths, mon prof m'avait dit qu'il était tenté d'écrire dans mon bulletin « Travail constant ». Et alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette notation qu'on trouve des fois sur nos bulletins de notes « Peut mieux faire ». Est-ce que c'est un reproche qui est fait à un élève paresseux ? Je pense qu'il y a des profs parmi nous, Lorraine, Séverine, Joël, qui ont peut-être déjà écrit ça dans un bulletin de notes. Peut mieux faire. C'est écrit à qui ? Un élève qui est paresseux ? Généralement, je pense que c'est ça, généralement. Mais ça pourrait aussi être un encouragement à un bon élève qui n'a pas encore réalisé tout son potentiel. Puis à lui, on lui dit, ben, tu vas y arriver. C'est possible, t'es déjà sur la route. Tu peux mieux faire, mais c'est possible. Quand l'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique, vous vous souvenez peut-être qu'il les félicite au début de la lettre. Puis après, ils pointent vers des domaines où ils peuvent mieux faire, où ils doivent aller plus loin. Et il dit en somme, les frères et les sœurs de Thessalonique, les frères et les sœurs de Mérin, parce qu'on le lit en 2021, vous faites bien déjà. Vous faites tellement bien déjà. Et vous pouvez mieux faire. Vous pouvez encore progresser. Ce n'est donc pas une critique, mais il me semble que c'est un encouragement. Cette église de Thessalonique, elle avait une histoire fascinante, une trajectoire remarquable. C'est l'une des toutes premières églises fondées sur le continent européen, Paul annonce là-bas l'évangile pendant 3 semaines dans une synagogue, puis pendant quelques semaines encore au centre-ville, pour un public qui est majoritairement grec. Puis, il est chassé de la ville, et il apprend là que les chrétiens sont exposés à des vexations, voire même parfois à des persécutions. Les juifs convertis sont pris pour cible par leurs compatriotes, et puis surtout, les grecs convertis sont visés par ceux qui ne supportent pas qu'ils n'adorent plus les dieux, qu'ils n'assistent plus aux fêtes païennes, et qu'ils mettent le Seigneur au-dessus des empereurs romains. Alors il est inquiet au sujet des chrétiens dans cette église, et Paul envoie donc Timothée prendre des nouvelles, puis après avoir envoyé Timothée prendre des nouvelles, il leur écrit une lettre. Fonder une église qui tienne la route après seulement 3 ou 4 mois, c'est quelque chose. Nous, Amérins, nous en savons quelque chose. Après quelques décennies, tenir, construire, bâtir une église qui tienne la route, c'est un sacré défi. Et à Thessalonique, l'église, elle tient. Elle tient, malgré l'épreuve. Et puis en même temps, il y a plusieurs domaines où cette église semble avoir besoin d'être encouragée. Alors on peut noter d'abord pourquoi l'apôtre Paul leur donne une bonne lettre, une bonne note, pardon. C'est au premier chapitre, les versets 2 à 7. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous et nous faisons sans cesse mention de vous dans nos prières. En effet, nous nous rappelons votre foi si active, votre amour qui se donne de la peine et votre solide espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, que vous êtes aimés de Dieu et qu'il vous a choisis. En effet, quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi en puissance, avec le secours de l'Esprit-Saint et avec une entière conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous en votre faveur. Vous êtes devenus des modèles. Stouk, t'arrives à me le faire avancer manuellement, merci Samuel. Vous êtes devenus des modèles. Et ils sont devenus des modèles sur 3 points en particulier. C'est ce fameux triptyque foi, amour, espérance. Une foi agissante. Littéralement, l'œuvre de votre foi. Voilà de quoi interpeller ceux qui pensent qu'on peut être croyant, mais non pratiquant. La foi authentique produit toujours des œuvres. Toujours. Pour l'amour, c'est la même chose. Paul les félicite pour leur amour actif, littéralement pour le travail de leur amour. On n'est pas dans un truc qui est mièvre, on n'est pas dans le copinage, on n'est pas dans la superficialité, on est en présence d'un amour qui se travaille, qui se manifeste pratiquement. Et puis en troisième lieu, la persévérance dans l'espérance, ou la persévérance que soutient l'espérance. Il y a des épreuves réelles, la vie est compliquée, elle est difficile, on en bave parfois, mais les chrétiens de Thessalonique regardent plus loin, regardent plus haut. Que Christ revienne ou qu'il me rappelle à lui, mon avenir est auprès de lui pour toujours. La foi, l'amour, l'espérance. Que demander de plus ? Sam, si tu arrives à m'envoyer le 4e, je te ferai des petits signes de temps en temps. La foi, l'amour, l'espérance, que demander de plus ? Et pourtant, Paul les invite à progresser encore. Et on va le voir dans notre 2e lecture qui servira une dernière fois de base à notre réflexion. Cette 2e lecture, elle est au chapitre 4. Je ne vais pas relire toute la péricope des versets 1 à 12, mais simplement depuis le verset 9. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, en effet, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est d'ailleurs cet amour que vous manifestez envers tous les frères et les sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à faire mieux encore. Ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner votre vie de vos propres mains, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Votre conduite suscitera ainsi le respect des personnes qui n'appartiennent pas au Christ, et vous ne serez à la charge de personne. Faites toujours plus de progrès. Avec ce texte, nous avons déjà parlé il y a plusieurs semaines, mais de sexualité, de rapport au corps, le sien, celui des autres. Nous avons parlé il y a quelques semaines d'amour fraternel. Et pour ce matin, Sam, pour ce matin, une dernière étape où nous suivons l'apôtre en pensant cette fois à la vie en société, à notre présence au monde. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Et au verset 11 et 12, ces deux versets forts, nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous l'avons déjà recommandé, afin de vous conduire d'une manière respectable aux yeux de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ainsi, vous ne dépendrez de personne. Ça peut nous paraître terriblement banal. Par exemple, travailler pour subvenir à ses besoins ou ne dépendre financièrement de personne. Est-ce qu'il fallait vraiment le dire? Est-ce qu'il fallait vraiment le dire? Ben, apparemment, oui. Dans le monde antique, chez les Grecs, chez les Romains, le travail, c'était une valeur largement déconsidérée. C'était les esclaves qui travaillaient. Les citoyens, eux, ben, ils s'occupaient des arts, les vénards. Pour les plus téméraires d'entre eux, ils s'occupaient de politique, déjà. Mais les esclaves travaillaient. Les citoyens honorables, ils allaient au bain. Ou ils allaient à l'ecclésia, qui était à l'époque l'assemblée des citoyens. Ils s'occupaient des affaires des autres, pour prendre le langage de l'apôtre, et puis ils le faisaient pour le meilleur et pour le pire. L'oisiveté, à l'époque, était un signe de standing social. Chez les Juifs, ce n'était pas tout à fait comme ça. L'apôtre Paul lui-même a souvent travaillé de ses mains pour subvenir à ses propres besoins, pour ne pas dépendre en particulier des personnes à qui il annonçait l'évangile. Cela lui a été reproché. Comment est-ce que ce grand intellectuel, ce philosophe, ce théologien pouvait avoir en même temps des mains calleuses, à force de manier des tissus grossiers? Mais pour Paul, travailler pour ne pas dépendre de ceux à qui il annonçait l'évangile, c'était un sujet de fierté. Les chrétiens d'origine juive, ils étaient minoritaires dans l'église de Thessalonique. Leur propre attitude envers le travail était donc un vrai problème pour les Grecs. Et Paul y est revenu à plusieurs reprises. Et dans la deuxième lettre qu'il va leur envoyer, il ira jusqu'à dire, 2 Thessaloniciens 3, verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, ben qu'il ne mange pas non plus. » Bim. Ma septième slide. Si on ne peut pas travailler, alors la solidarité doit jouer. Quand on ne peut pas travailler, la solidarité doit jouer. Mais si on ne veut pas travailler, de quel droit s'attendre à ce que les autres travaillent pour nous. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui encore ? Chez une petite minorité de chrétiens, oui. Dans des milieux marginaux, oui. Dans certaines religions orientales, où les religieux mendient, où ils sont censés être plus proches de Dieu en mendiant, oui, c'est un problème. Mais contrairement à ce que nous pourrions penser, pas dans les monastères bénédictins qui suivent la règle « prier et travailler ». C'est que le travail salarié, ça aide énormément à structurer sa vie, ses journées. C'est beaucoup plus compliqué pour un parent au foyer, pour un retraité, pour un chômeur malgré lui, pour un malade, pour un auto-entrepreneur, pour un artisan, parfois pour un pasteur. C'est beaucoup plus compliqué. Mais ce que l'on peut dire, c'est que quand on vit de manière désordonnée, eh ben on déshonore le Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de comprendre aujourd'hui encore l'importance de se donner un cadre, de se fixer des objectifs, d'être redevable, en particulier quand on n'est pas salarié, se fixer un cadre. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre l'exhortation dans notre texte à ne dépendre de personne. Ce n'est pas un truc absolu, ça, parce que les enfants dépendent des parents. Parfois, des personnes âgées dépendent de leurs enfants. Ou des personnes en situation de maladie ou de handicap peuvent dépendre de leur propre famille, d'un proche aidant. Peuvent dépendre de la solidarité et des structures de l'État. Béni soit Dieu pour ce qu'il nous permet de vivre en Suisse. À Éphèse, selon 1 Timothée, les veuves démunies dépendaient de l'Église, parce qu'il n'y avait pas d'État. Ne dépendre de personne, c'est donc une règle générale. Et je pense que ça ne doit pas empêcher certains, certaines d'entre nous, de bénéficier de mesures, de solidarité familiale, de solidarité étatique ou même de solidarité ecclésiale. L'occasion pour moi de dire en 3 secondes que nous avons dans notre église locale une commission sociale. Si vous êtes au courant d'une situation qui mériterait qu'on s'y penche, faites-nous signe. Et puis la règle de ne dépendre de personne, elle ne doit pas non plus nous empêcher de nous porter au secours de celles et ceux qui auraient besoin d'aide. Alors, est-ce que c'est tout ce que l'apôtre Paul trouve à dire sur l'éthique du travail ? Pourvoir à ses propres besoins ? C'est bien ça déjà, moi je trouve que c'est bien, pourvoir à ses propres besoins. Mais est-ce que c'est tout ? Alors, il me semble qu'il y a mieux encore. C'est dans Éphésiens 4, verset 28. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Alors, travailler égoïstement pour se remplir les poches, pour avoir de plus en plus de biens matériels, de plus en plus de vacances, de plus en plus de loisirs, ce n'est pas une motivation suffisante dans la vie. C'est même une source de profonde insatisfaction. C'est 1000 fois mieux si, au-delà du fait de subvenir à ses propres besoins, à ceux de sa famille, tout à fait consciemment, intentionnellement, nous pouvons viser à donner. Nous mettrons alors en pratique cette formidable parole du Seigneur Jésus : il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ce verset qui me guide quand ma ministre des Finances vient vers moi en demandant « Alors, on fait un don de 40 ou de 50 francs ?» Si nous devons pencher d'un côté, il faut pencher du côté de la générosité. Il faut que j'aille encore un tout petit peu plus loin dans notre rapport au travail. J'ai dit « Subvenir à nos propres besoins, être en mesure de donner, c'est élémentaire, mais cela ne concerne que le travail rémunéré. » Et ça ne concerne qu'un des aspects du travail rémunéré. Alors, au-delà de cela, il faut se souvenir de deux autres motivations qui sont, à mon sens, fondamentales. La première, c'est le leitmotiv de la création. Dieu, le Créateur, nous a fait à son image. Nous sommes appelés à créer à notre tour. Nous sommes appelés à connaître la terre, à travailler la terre, à gérer la terre, puis à nous reposer un jour sur sept. Ne pas travailler, c'était l'aspiration des Grecs et des Romains. Les bains, les jeux du cirque, les discussions interminables sur tout et sur rien, ça c'était leur vie, ou en tout cas la vie des riches et des nobles, mais ce n'est en tout cas pas un idéal chrétien. Travailler, c'est notre vocation au sein de la création de Dieu qui est bonne. Ce n'est pas en soi une malédiction. Le travail, il était en place avant la chute. Le leitmotiv de la création, qui vaut donc aussi pour des gens qui ne travaillent pas, chômeurs malgré eux, qui veut aussi pour des retraités, un peu de temps à donner ici ou là. Combien d'entre vous sont engagés pour faire du bien dans l'œuvre du Seigneur ou dans des associations? Et puis il y a un deuxième aspect, une autre conviction qui doit aussi nous motiver. Par notre travail, rémunéré ou pas, nous sommes au service de notre prochain. Par ce que nous produisons, de la nourriture, des biens ou des services, par ce que nous vendons, par ce que nous transportons, par les connaissances que nous transmettons, par les services à la personne, par les services de santé, par le ménage. Si dans votre travail, vous n'arrivez pas à voir en quoi vous êtes au service des autres, alors vous êtes frustré. Ou bien dans votre tête, vous revalorisez votre travail pour le comprendre comme un service, ou bien vous changez de travail. Sinon, vous vous résignez à vivre frustré jusqu'à l'âge de la retraite. À mon sens, ces deux motivations-là, le service dans un monde créé et le service aux autres, ces deux motivations vont nous aider à ne pas suivre nos collègues dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent. Ça peut nous libérer de la tentation d'exploiter des clients, des subalternes ou la nature même. Vous ne vivrez pas que pour le profit et ça se verra. J'espère que vous voyez le rapport entre le travail et le témoignage chrétien. C'est plus large que le simple travail salarié. Mais c'est aussi le travail salarié. Prochaine slide. Merci. Se conduire d'une manière respectable aux yeux de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu, c'est un truc qui doit être compris de façon très large. Et je crois que nous pouvons faire des progrès dans cette dimension-là. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte ici. La probité, l'honnêteté, le sérieux dans le travail, le respect de la parole donnée, le respect envers les personnes, le calme, la retenue, la modération. Moi, j'ai tellement de progrès à faire dans ces domaines-là. Et toutes ces qualités, bien sûr qu'elles sont évoquées dans le contexte de l'Église, mais je crois qu'il faut qu'elles se voient aussi en dehors de l'Église. Ce qui m'amène au dernier volet de la réflexion de ce matin, c'est le témoignage rendu à Christ par nos paroles. Le témoignage rendu à Christ par nos paroles. Une petite phrase dans la première lettre de Pierre fait le lien entre notre comportement dans la société et le témoignage de nos mots. Pierre dit ceci. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Le témoignage rendu à Christ par nos paroles. Vous connaissez peut-être l'histoire du chrétien qui a toujours eu un comportement exemplaire dans son travail. Et puis il donne un pot de départ à l'occasion de sa retraite. Puis au milieu des petites bulles et des petits fours, il y a un collègue qui vient vers lui en lui disant « Tu vas nous manquer. T'as toujours été un peu différent des autres, toi. Gentil, loyal, honnête, simple. Ah, je sais pourquoi. T'es sûrement végétarien. » Ben, c'est que s'il n'y a jamais aucune parole qui renvoie à Jésus-Christ, eh ben, le témoignage de notre vie n'est pas un témoignage. C'est aussi simple que ça. Un auteur connu a évoqué la différence de vie qui interroge parfois nos contemporains. Puis il écrit ça. Cependant, cela reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus, de Nazareth, fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Vous savez qui c'est cet auteur? C'est le pape Paul VI, en 1975. J'ai pas mieux. Alors témoigner par ses paroles, oui, mais comment? Parce que suivant les milieux professionnels et les cultures, eh ben, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Le plus simple, ben, c'est de répondre aux questions, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que en Iran, ben, vous risqueriez votre vie à répondre à des questions. Et puis c'était comme cela pendant les persécutions en France. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles, en France, on ne parle pas de religion entre des gens bien élevés. Ça serait vous mettre en danger ou mettre votre interlocuteur en danger. Et puis aujourd'hui, dans certaines professions, dans des associations, dans des entreprises, il y a des règlements qui limitent la liberté de parole. Et même quand vous avez le droit de parler à des adultes consentants pendant des temps libres, par exemple, eh ben, dans certains milieux, si vous le faites, vous vous exposez à du harcèlement. On va vous tendre des pièges, peut-être. Mais on va quand même dire que répondre aux questions, c'est généralement, une bonne méthode. On peut aussi se raconter. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'est-ce que tu vas faire pour les vacances? T'as appris à faire le ménage comme ça, où? Ben, à l'église, en faisant partie d'une équipe de nettoyage des locaux. J'ai une super formatrice, elle m'expliquait comment ça marche. Ah ouais, parce que tu vas dans une église, toi? Ouais. Puis dans cette église, tu fais le ménage, vous n'avez pas une femme de ménage? Non, pas chez nous, on n'a pas de femme de ménage. On a des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Et puis, ben, en semaine, on se retrouve pour un petit moment, en une heure et demie, c'est fait, c'est super cool, on passe des bons moments ensemble. C'est comme ça que j'ai appris à faire du ménage. Ah ouais. C'est comme ça que j'ai appris à faire du ménage à l'église. Comment se fait-il que tu connais les randonnées autour de Mérin? Ben, je connais les randonnées autour de Mérin parce que j'ai un super pote avec qui de temps en temps on va faire le tour des bois. Là, c'est 6 ou 8 kilomètres, il y a 3 parcours possibles et puis on prend le temps d'échanger. Si tu veux un coup, tu peux venir avec nous. Se raconter. S'identifier comme chrétien, ce n'est pas si difficile que cela. On le fait comme d'autres parleraient d'un club de foot ou d'un concert. Naturellement et sans s'imposer. Parfois, les gens rebondissent dessus, parfois ils rebondissent mais plus tard, parfois ils s'en fichent complètement. Parfois, cela leur fait peur et ils érigent un mur invisible. Mais au moins, ils ne diront pas que nous sommes végétariens. Et puis, on peut aussi poser des questions, sans forcément nous sentir obligés de venir contredire la personne après. Mais on peut poser des questions. T'as pensé quoi de l'incendie de Notre-Dame ? Le cas de Vincent Lambert, là, ça éveille des trucs chez toi ou pas ? Puis quand t'as eu le cancer, t'as pensé à la mort ? Ces approches indirectes, elles ne sont pas encore l'annonce de Jésus-Christ. Mais dans notre milieu sociétal, elles sont souvent la seule manière d'avancer. On sème de petites graines en espérant que l'une ou l'autre va germer. Je conclus. L'apôtre Paul, je trouve qu'il dit de très belles choses au sujet du témoignage des Thessaloniciens. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. En tout lieu, même à Mérin en 2021, on reçoit ce témoignage. C'est que leur conversion, elle a fait du bruit, d'autant plus qu'elle était suivie par de la persécution. Les provinces grecques, on a entendu parler. Les marins, les commerçants, les voyageurs qui passaient par ce grand port de Thessalonique en ont porté la nouvelle plus loin encore. Leur changement de vie était si radical que tout le monde en parlait. Et pourtant, Paul leur dit, « Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès. » Je me pose et je nous pose la question ce matin. Dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre travail, dans telle ou telle assos dont nous faisons partie, est-ce que nous pouvons faire quelques progrès ? Sur la slide 14, où elle est petite, c'est ma faute. Si vous avez l'occasion, vous pouvez la prendre en photo ou je vous l'enverrai. Mais c'est quelques questions de suite pour l'atelier biblique de mardi soir. J'aimerais qu'on puisse réfléchir encore ensemble, l'intelligence collective, à ce sujet, et on le fera avec l'atelier biblique en ligne sur Zoom, puisqu'ici on ne peut être que 15, et puis que c'est un petit peu serré, avec quatre questions. Est-ce utopique d'avoir une attitude positive par rapport au travail ? Que pourriez-vous changer ? De quelle manière pourrions-nous progresser ? Notre vie est-elle suffisamment visible auprès des non-chrétiens ? Où et comment développer des relations confiantes, ouvertes avec eux ? Faut-il changer certaines priorités pour être accessible en dehors de l'Église ? J'ai des amis qui ont implanté une église en France, en région parisienne. Une église qui se développe de façon impressionnante, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais ils ont utilisé un truc assez sympa. C'est qu'une fois par mois, il n'y a pas de culte. Du tout. Il faut vivre la vie que les gens vivent, le dimanche en particulier. Les rares dimanches où j'ai congé, je vais me balader du côté de Plainpalais. Des fois, je vais écouter un culte dans une autre église, vous me pardonnerez. Je suis impressionné du nombre de gens qu'il y a et que je ne verrai jamais autrement. Est-ce qu'il faut que nous nous rendions disponibles en dehors de l'église ? Ou est-ce que l'Église absorbe tout notre temps libre ? Quels sont les thèmes chrétiens que vous pouvez aborder avec des non-chrétiens sans qu'ils se sentent agressés ou menacés ? Seriez-vous en confiance pour inviter un ami non-chrétien au culte, à un groupe de quartier, à cet été ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Amen.
Je vous propose de poursuivre ce temps de, un peu méditatif et ce temps de prédication avec un temps de prière communautaire où vous serez libre de vous exprimer à haute voix dans la prière. Vous pouvez le faire aussi à la maison pour ceux qui sont ailleurs et qui nous suivent en direct ou pas. Et avec deux axes, effectivement en lien avec la prédication, notre témoignage personnel, notre témoignage en tant que communauté, les actes, subvenir à nos besoins, le partage, la parole qui doit aussi accompagner tout ça. Et aussi par rapport à l'Église, effectivement je me disais, il y a deux remplacements un peu au pied levé. Il y a le renouvellement du conseil qui est en train de se préparer. Il y a des choses qui sont d'actualité et ça me rappelle que, et ça devrait nous rappeler qu'il est important aussi qu'on prie les uns pour les autres et pour ceux qui sont un petit peu devant en particulier. Donc j'invite à prendre ce temps pour simplement prier dans votre cœur, à haute voix, les uns pour les autres et pour notre témoignage. Seigneur, merci parce que tu nous encourages à faire mieux. Et merci parce que tu es un Dieu qui nous met en avant et qui nous met au travail. Alors que tu nous aides, que tu m'aides dans mon témoignage de tous les jours, que ce soit par les actes, mais que ça puisse être aussi accompagné de paroles. C'est vrai que des fois, j'ai un peu peur en me disant, voilà, là je mets des choses en jeu, il faut que mes paroles, ou que mes actes plutôt correspondent à mes paroles. Alors Seigneur, que tu m'aides à vivre ta parole déjà dans ma vie, pour pouvoir en témoigner autour de moi. Amen.
Seigneur Jésus, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité pour répondre aux opportunités qui sont devant nous. Alors Seigneur, que nous soyons courageux dans nos paroles aussi. Seigneur, c'est vrai que nous voulons aussi te remettre les personnes autour de nous, Seigneur, que nous puissions être une aide, le témoignage de vie puisse aussi être un témoignage de parole. Alors Seigneur, que nous puissions, par ton Esprit Saint, nous puissions être courageux. Amen. Amen.
Seigneur, parce que dans ce pays, nous avons le choix. Merci parce que pour ce message de ce matin qui est très pratique. Et Seigneur, c'est vraiment souvent un plaisir de savoir que les gens peuvent avoir confiance dans les chrétiens. Amen.
De ce matin. Donne-nous de nous l'approprier et donne-nous de l'intégrer de façon à ce que nous puissions briller pour la gloire de ton nom, que nous soyons au service de tout ce que nous rencontrons et qu'à travers nous, il te reconnaisse. Nous, par le mérite de ton Fils Jésus, que nous avons.
Amen.
Je vais t'exprimer toute ma reconnaissance. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes chaque matin. Je renouvelle Seigneur mes forces chaque matin. Merci Seigneur de lui d'être ton enfant. Merci Seigneur pour être ce Dieu fidèle. Qui tient les promesses. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour mon fils jusqu'à maintenant. Ô Seigneur, donne-moi, ô Seigneur, d'être aussi un témoignage pour les autres. Que ces moments aussi, voilà, que je vis, que je puisse, ô Seigneur, par les épreuves, tout ça, Seigneur. Et nous pouvons, je peux témoigner, Seigneur, quand on me demande. Seigneur, merci, parce que nous avons besoin de toi et tu dis, va avec la force que tu as. Mmh. Oh Seigneur, moi je te rends grâce. Tu es mon Dieu. Et je m'attends à toi. Je te loue de tout mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen.
En ces jours de fête du travail, Seigneur, le 1er mai, nous entendons hier encore Pierre Maillard dire 500, 600 000 personnes vivent dans la précarité, la pauvreté. C'est ça, ce nombre fait remonter cette pandémie d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons penser à tous ces jours. Chômeurs, contre-recrés, ceux qui ne font pas de travail, les petits patrons qui doivent fermer leur boutique, leur bistrot, tous ceux qui aujourd'hui sont dans la peine et dans la précarité, Seigneur, tous ces gens-là, nous voulons te les apporter. Et puis que nous sachions, comme il a été dit, toi qui es Dieu des retournements, ne pas avoir le travail comme une ascension sociale, mais comme ce service au prochain, l'occasion de donner, de partager. Seigneur Jésus, que donne-nous des cœurs préparés et disponibles pour ce à quoi tu nous appelles, individuellement et en communauté. Nous t'en mettons ce monde du travail, Seigneur, ce syndicat, tous ceux qui bossent pour essayer d'améliorer les choses. S'il te plaît, Seigneur, merci parce que tu bénis encore notre pays. Amen.
Seigneur, ensemble, nous voulons encore te remettre nos pasteurs, merci de les avoir placés parmi nous, de les avoir équipés et que tu continues à les renouveler, eux et toute leur famille. Seigneur, que tu gardes le conseil, que tu gardes en particulier la commission qui travaille pour le renouvellement de ce conseil. C'est beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour la suite. Que tu bénisses tout ce travail pour qu'on puisse continuer à être ensemble, ton Église, tes témoins, et qu'on puisse être aussi édifiés les uns les autres à l'intérieur de l'Église pour qu'on puisse rayonner à l'extérieur. Amen. Merci. Béni soit le nom du Seigneur par le chant ou par la parole, qu'on puisse le proclamer et le parler, si pour l'instant on ne peut pas le chanter. Elisabeth, pour les annonces.
Bonjour. Alors, il n'y a toujours pas d'offrande pendant le culte, mais vous pouvez faire un don au moyen du CCP, sur le CCP de l'Église, par Twint ou la boîte qui est à la sortie. Tout prochainement, vous devriez recevoir le mémo du mois de mai. Alors, il y a des enveloppes où vous allez le recevoir par mail, pour autant que nous ayons vos coordonnées. Si jamais ce n'est pas le cas et que vous désirez recevoir les infos, vous pouvez donner vos coordonnées à Philippe, par exemple, qui transmettra à qui de droit. Mardi soir, donc, il y a l'atelier biblique. Philippe en a parlé suite à la prédication de ce matin. Donc, c'est aussi par Zoom et vous allez recevoir le lien demain, je pense, demain matin. Vendredi, le caté en présentiel. Alors, l'horaire est un petit peu modifié, ravancé pour que les jeunes qui sont domiciliés en France puissent venir et rentrer pour l'heure du couvre-feu. Alors, ils recevront un mail de confirmation dans le courant de la semaine. Dimanche prochain, le culte avec David Porter. Et dimanche prochain aussi, le 9 mai, c'est le dernier délai pour renvoyer le sondage pour la recherche du conseil. Il y a une boîte dans le foyer, si vous avez rempli le formulaire, ou alors par mail, où il y a l'adresse de la personne à qui vous pouvez le renvoyer. Alors, la commission compte sur votre participation pour les aider dans leur travail. Alors, merci d'avance et bon dimanche.
C'est une parole du Seigneur Jésus qui nous envoie dans cette nouvelle semaine. Je vous invite à vous lever. Une parole au cœur du sermon sur la montagne où le Christ nous dit ceci. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Alors, dans cette nouvelle semaine, ayons du goût, mettons de la saveur, du piquant, conservons, et puis brillons. Brillons bien. Bonne semaine, bon dimanche, à bientôt.